Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 octobre 2021. J'ai plongé dans mes livres d'histoire ce matin et je me suis rendu compte en fait que le crash de 87 c'était le 19 octobre, que le crash de 1929 c'était respectivement le 24 et le 29 octobre 1929. Donc en gros, ça nous laisse encore quelques jours avant de boucler la fin du mois d'octobre. Et apparemment, en tous les cas, statistiquement, eh bien, le pire du mois d'octobre est encore à venir si on se contente de regarder le passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parle de ça parce que quand je fais un petit peu le tour des marchés et quand je vois un peu la séance d'hier et ce que ça nous laisse augurer d'aujourd'hui, je suis pas 100% à l'aise et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors tout d'abord, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé de spécial, hein. On avait plutôt un début de semaine assez sympa qui avait l'air de se présenter, les marchés étaient bien orientés, les gens étaient plutôt positifs, plutôt constructifs, on s'était dit que les chiffres de l'emploi qui étaient complètement à côté de la plaque, c'était pas vraiment un gros problème, et puis tout d'un coup, au milieu de l'après-midi, allez savoir pourquoi, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dû se rendre compte que finalement, si l'inflation montait, c'était pas super bon. Et puis quand on voit la tronche de ce qui se passe au niveau de l'énergie, eh bien, il y avait forcément de quoi baliser. Donc en gros, le thème est assez simple, hein, c'est hausse de l'énergie, donc peur de l'inflation. Si peur de l'inflation égale, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, tapering. Ensuite du tapering, qu'est-ce qui se passe? Hausse des taux, donc hausse des taux, pas bon pour le marché. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave, on s'accroche quand même à ça parce qu'on a une vision à 5 minutes ou 7 minutes maximum. Donc du coup, on se dit, ouais, mais si jamais tout ça se passe, bah, le marché va se péter la gueule. Non, si on regarde historiquement parlant, les vagues de hausse des taux de la Fed n'impactent pas le marché. Au contraire, le marché des actions est plutôt à la hausse alors que la Fed est en train de monter les taux. Pourquoi? Bah, ça veut simplement dire que la Fed est en train de gérer une économie qui est en train de boomer pour pas que ça devienne trop inflationniste. C'est le boulot de la Fed. Donc c'est assez logique. Maintenant, c'est clair qu'on vit depuis je sais plus combien de temps dans une période de taux super bas, de soutien massif de la part des gouvernements. Donc aujourd'hui, on n'a pas envie de perdre ce soutien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on a peur parce qu'on préfère quand même avoir les taux à zéro. C'est quand même vachement plus cool. Et donc, du coup, les marchés sont angoissés. Peut-être de manière un peu injustifiée, mais il est vrai que de l'autre côté, quand on voit la vitesse à laquelle tout ce qui est énergie est en train de monter, eh bien, on peut avoir un tout petit peu la trouille et c'est la prise de conscience qu'on a eue hier après-midi. Alors avoir des prises de conscience, c'est pas si grave que ça dans les marchés. On a le droit de temps en temps de flipper, de paniquer, de vendre, de se dire ouais j'ai plus tellement envie d'être dedans. On verra comment ça va se passer. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a eu des chiffres économiques la semaine dernière qui nous ont pas apporté grand-chose, si ce n'est que ça va pas aussi bien que ça et qu'il y a un shift de mentalité dans la tête des gens. Aujourd'hui, on attend quoi? On attend pas grand-chose puisqu'il y a, bon, il y a pas mal de présidents de la Fed qui vont parler cette semaine, mais ça devrait quand même pas changer la big picture puisqu'ils vont quand même se réunir dans 3 semaines pour nous dire qu'ils vont commencer le tapering en décembre. Ça, c'est plutôt du « on le sait déjà ». À côté de ça, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend les chiffres du mois. Les chiffres du mois, les chiffres du trimestre plutôt, vont commencer à partir de mercredi avec les bancaires. On sait aussi, historiquement parlant, que les chiffres des bancaires sont les chiffres les plus faux qu'on puisse avoir et les plus loin des estimés que l'on puisse avoir, puisqu'on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et quand vous regardez les analystes bancaires qui font les analyses sur les autres banques, en général, mais ils sont mais complètement à côté de la plaque. Donc c'est pas forcément sur les chiffres des bancaires qu'on va pouvoir trouver un certain réconfort. Il va falloir attendre en tout cas la deuxième partie de la semaine suivante pour avoir un petit réconfort avec des vrais chiffres, des vraies sociétés qui créent des choses vraiment concrètes. Donc du coup, il va y avoir un petit décalage encore. Et dans cette zone un petit peu grise, eh bien on est quand même dans une position relativement délicate. Position délicate parce que si vous regardez tout simplement les graphiques du moment, alors moi j'aime bien de temps en temps, je fais 2-3 fois par semaine, je reprends les grands graphiques principaux, hein, S&P, Dow Jones, Nasdaq, SOX, DAX, CAC, SMI, etc., etc., les grands indices. Je regarde un petit peu les tendances et je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Comment on va? Où est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et je dois dire qu'aujourd'hui, il y a 2-3 choses qui me déplaisent profondément. La première chose qui me déplaise, c'est le DAX. Alors le DAX, quand vous regardez le graphique aujourd'hui, ben on voit que on ne fout strictement rien depuis des mois, grosso modo. Et puis là, on est en train de s'effriter lentement, mais sûrement, et c'est vraiment pas terrible. Et quand vous regardez les moyennes mobiles, alors La moyenne mobile de 200 jours, c'est celle qui est en dessous. La moyenne mobile des 50, c'est celle qui est en dessus, en bleu. Et quand vous voyez la moyenne bleue qui est en train de faire sa courbe, qui est en train de redescendre, ça veut dire qu'on va faire un dead cross sur les deux moyennes mobiles et c'est pas une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que le DAX est gentiment en train de changer de tendance. Alors si c'était que le DAX, on pourrait dire qu'il nous fait un faux break. Il est un peu déprimé parce que les voitures vont moins bien en ce moment, mais que ça va revenir. Mais en fait, quand vous regardez un petit peu le reste, bah, vous avez aussi l'impression que le CAC 40 est faible, que le SMI est faible et qu'on a de la peine à repartir. Et puis quand vous regardez surtout les indices américains, on voit que le S&P 500, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été aussi longtemps en dessous de sa moyenne mobile des 50 jours, ce qui n'est pas un bon signe. Mais moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est le graphique des semi-conducteurs index. Et quand vous regardez le graphique des semi-conducteurs index à l'instant, eh bien vous voyez qu'on n'arrive pas à monter et qu'on s'approche dangereusement de cette moyenne mobile des 200 jours aussi. Quel est le risque? Eh bien, le risque, c'est que les gens flippent à l'orée des résultats. Les résultats des premiers semi-conducteurs seront publiés en cours de semaine prochaine. Et donc, il se pourrait que les gens commencent à paniquer, commencent à vendre maintenant, casser la moyenne mobile des 200 jours et déclencher une tendance baissière. Le problème de déclencher une tendance baissière sur l'indice des semi-conducteurs, eh bien, c'est que c'est un indicateur avancé, ce qui voudrait dire que si les semis cassent à la baisse, ça veut dire que le reste va suivre à la baisse. Vous rajoutez hier Goldman Sachs qui a encore baissé les perspectives du GDP ou du PIB américain pour le reste de l'année. Vous sentez cette ambiance un tout petit peu pas terrible pour rester poli et assez déprimante où les gens ont l'impression qu'ils veulent plus y aller. Quand vous arrivez ce matin devant vos écrans et que vous voyez la totalité de l'Asie à la baisse, les futurs orientés à la baisse, que tout le monde a l'air super prudent et très 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 inquiet par rapport à l'inflation, on a eu un léger pullback sur le pétrole, soit il en baissé de 30 cents, mais vous avouerez quand vous passez de $40 à $80, parce qu'on vient de se rendre compte hein, qu'on a pris $40 en quasiment une année, ça va pas changer grand chose, quelque chose comme 30 cents. Et puis techniquement, le pétrole, il a tout à fait les droits de venir se reposer sur le breakout qu'il a fait récemment, c'est ce qu'on appelle un pullback, et ensuite il pourra repartir à la hausse, aller en direction des $100, comme c'est prévu par la plupart des analystes américains, et on connaît leur efficacité ces derniers temps. Donc voilà, on va encore me dire aujourd'hui que je suis un marchand de peur et que je suis angoissé. Oui, c'est vrai, j'aime pas ce qui est en train de se passer pour le moment. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on est en train de se préparer un crash comme beaucoup aimeraient entendre parler. Mais disons que pour l'instant, on a l'air d'être parti, en tout cas temporairement, dans une tendance baissière. La question sera de savoir si les sociétés sont capables de nous publier des résultats fantastiques et de nous réinverser la tendance et de repartir à la hausse. Mais ça, pour l'instant, rien n'est moins sûr. Ce ne sera pas forcément une question de qualité des résultats. Ce sera surtout une question d'interprétation. Est-ce que les analyses sont trop hauts, trop bas? Et c'est par rapport à ça qu'on pourra faire nos jugements. Il y a aussi une crainte, c'est cette espèce de, ce qu'on appelle ces bottlenecks, ce fait qu'ils n'arrivent pas forcément à se fournir. On sait qu'on a des shortages en semi-conducteurs, c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc on a côté semi-conducteurs qui manquent. On sait qu'il y a certaines boîtes qui aimeraient bien vendre plus, mais qui peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le matériel pour créer des produits finaux. Donc ça sera un petit peu le challenge de ces prochains jours. Mais en tout cas, aujourd'hui pour aujourd'hui, les charts sont pas beaux, l'ambiance est pas terrible et c'est franchement un tout petit peu, mais un tout petit peu angoissant. Alors oui, forcément, on peut se dire, oui, c'est angoissant, c'est moche, il en rajoute des tonnes. C'est vrai, mais je suis aussi là pour vous le dire, et moi, je ne pense pas qu'on va vers un crash. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vision à plus de 10 minutes. Il suffit qu'aujourd'hui, quelqu'un vienne dire un truc positif, et cette espèce d'état d'angoisse dans lequel on est depuis quelques jours, eh bien, il va s'envoler comme s'il n'était jamais arrivé, et on va repartir comme en 40. Donc, il faut quand même vraiment se méfier. Notre vision de l'investissement est très courte. Les gens qui veulent aujourd'hui faire de l'investissement, ils parlent pas d'investissement, ils parlent de trading. Donc ça veut dire aussi que les rotations de direction, les changements de direction, l'effet girouette et l'effet tournage de veste restent encore extrêmement présents. Donc méfiance quand même pour ces prochaines heures parce que techniquement ça sent quand même pas super bon. Donc il n'y a pas de raison non plus de se jeter en avant dans la moissonneuse batteuse. On va laisser passer un petit peu quelques jours, voir un peu comment ça va évoluer ces prochaines heures. Je fais un rapide détour par les crypto-monnaies, le Bitcoin, puisque hier soir, Jamie Dimon a déclaré que le Bitcoin valait zéro virtuellement. Il a encore déclaré que lui, il pensait que c'était de la daube, etc., etc. Alors c'est assez intéressant, hein, parce que ce genre de commentaire, d'habitude, quand il y a quelqu'un qui vient faire un commentaire comme ça, surtout une personne importante comme Jamie Dimon, eh bien le marché se fait littéralement avoiner, en tout cas sur les crypto-monnaies. Sauf qu'hier, tout le monde s'est foutu de sa gueule version à fond, tout simplement parce que monsieur Jamie Dimon, il est déjà venu en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2020 et en 2021 pour nous dire en gros que le Bitcoin, ça n'avait pas d'avenir, qu'il y comprenait rien, qu'il aimait pas, qu'il pensait que c'est de la daube. Je vous en passe des meilleurs. Vous voyez son tweet, la liste des tweets qu'il a fait et des commentaires qui tournent sur Twitter en ce moment. Tout le monde est en train de se foutre de lui pour son commentaire. Il est évidemment faux depuis des années, comme moi d'ailleurs, parce que j'ai pas du tout cru au début non plus. Mais c'est vrai que lui, il insiste et persiste et signe aujourd'hui. Et donc, il se fait littéralement avoiner par les investisseurs, les crypto-investisseurs. Et ça ne change absolument rien au Bitcoin, puisqu'il est toujours à plus ou moins à 57 000 dollars, à quelques centaines de dollars près. Donc voilà la petite histoire de Jamie Dimon qui fait sourire le monde de la crypto-monnaie. Et en ce qui me concerne, je vais vous laisser là, parce qu'au niveau des questions, j'ai beaucoup de questions qui viennent sur mon avis sur certaines sociétés. Donc je vais prendre le temps de les analyser un peu plus loin avant de vous dire tout et n'importe quoi. Donc je vais revenir demain pour répondre à deux ou trois de vos questions aussi, bien entendu. N'oubliez pas d'ici là de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis surtout revenez demain, parce que sinon vous allez me manquer terriblement. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain. Bye bye.